Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Luc Long. Ce sont deux mots, prénom et nom très courts, mais qui claquent vraiment très bien ensemble et qui évoquent tout de suite pour les Nîmois, mais pas seulement pour les Nîmois, pour les gens de la région, mais pas seulement, pour plein d'autres gens qui s'intéressent à l'Antiquité, à l'archéologie. Ces deux noms, prénom et nom, Luc Long, évoquent tout de suite des fouilles subaquatiques, puisque vous êtes non seulement archéologue, mais plongeur et spécialiste de beaucoup de choses dont on va parler. Alors, pour vous situer, si jamais les auditeurs étaient un petit peu perdus, l'équipe du Chaland romain tiré du Rhône en 2004, Arles Rhône 3, qui valut au beau musée bleu que j'adore de s'agrandir, car c'est grâce à ce chaland pour lequel il a fallu construire une salle que le musée a obtenu des fonds et s'est agrandi. C'était un véritable trésor national, si je vous déguillemets. Le buste présumé, j'insiste bien sur présumé parce que ça fait tellement de polémiques, le buste présumé de César, enfin moi je le vois César hein, quand je vois ce buste, c'était encore lui en 2007. Donc ce buste daté de 46 avant Jésus-Christ, était-ce César, n'était-ce pas César? En tout cas, si c'était César, c'est l'une des rares sculptures connues et réalisées de son vivant. Donc ça, on vous le doit. Et puis, vous avez plein d'autres aventures archéologiques et aquatiques à mentionner. Entre 2009 et 2011, mais je ne suis pas trop sûre de ma date, Luc Long, vous assurez le commissariat général de l'exposition donc César, le Rhône pour mémoire, au musée départemental de l'Arles antique. Et puis, depuis quelques années, vous participez à une autre aventure muséale, celle du musée, du petit mais magnifique musée des Saintes-Maries de la Mer, musée que j'adore. Est-ce que j'ai à peu près résumé? On n'a pas encore tout dit, mais est-ce que ce que j'ai dit est vrai?
Oui, oui, tout à fait. Écoutez, merci, c'est bien, c'est un bon résumé.
Alors, aujourd'hui, donc ça c'était le passé, mais Dieu sait que nous ici, on s'intéresse beaucoup au passé. Mais aujourd'hui, votre actualité, eh bien, c'est une mission qui vient de s'achever. C'est pour ça que j'avais envie de vous laisser de la place sur les ondes Antiquissimo, sur Radio Alliance Plus. Une mission sur une épave, et là, j'aimerais vous écouter parler de cette épave SM55 au large de la Camargue. Pour laquelle vous avez donc plongé sous la tutelle de la DRAZM. Mais avant de vous laisser cette parole pour que vous nous expliquiez tout ça, j'aimerais qu'on revienne encore plus dans votre passé, c'est-à-dire vous poser quelques questions indiscrètes sur votre odyssée personnelle. J'ai lu que vous aviez toujours plongé depuis tout petit à Marseille, que déjà tout petit vous adoriez ça.
Oui, c'est ça. Mes parents avaient un cabanon au bord des Calanques, en fait, sur la côte bleue. Et du coup, depuis l'âge de 7 ans, j'aimais aller me mettre à l'eau. Alors, au début, c'était un peu pour chasser, puis après, c'était plutôt pour découvrir les fonds marins. Mais au départ, c'était surtout de l'apnée. Je me suis mis à la plongée bouteille que plus tard, lors de mes études d'archéologie sous-marine, où là, j'ai pensé qu'effectivement, c'était une voie pour moi qui s'ouvrait. Et comme j'étais déjà adepte de l'eau salée, ça ne me posait pas de problème.
Et alors, bon, toujours dans ce cursus de l'enfance et de l'adolescence, là, on parlait de Marseille et des environs, en tout cas de notre belle côte, et à Arles, vers l'âge de 12 ans, vous vous initiez cette fois-ci à la plongée sous-marine.
Alors, c'est, la plongée sous-marine, c'est un peu plus tard, en fait. C'est au moment où j'entreprends mes études d'archéologie. À 12 ans, en fait, je m'initie à l'archéologie terrestre, en réalité. Alors d'abord, on fait un peu des fouilles avec les copains pendant les vacances, un peu des fouilles clandestines dans le vieux château du village. Alors, tout ça, ça ne se fait pas, bien sûr, ce n'est pas légal. Enfin, bon, depuis, j'ai payé la dette. et après, effectivement, j'ai participé à des chantiers terrestres comme bénévole. Mais c'est surtout lorsque j'entreprends vraiment mes études d'histoire d'archéologie que là, je me dirige vers l'archéologie sous-marine et que je me mets du coup à la plongée en bouteille, ce que je n'avais pas fait jusqu'à présent. J'avoue, j'étais plutôt un plongeur apnée, comme je vous disais, quoi.
Et bon, ça n'empêche évidemment que vous avez mené aussi des études jusqu'à obtenir un DEA d'art et d'archéologie à Aix-en-Provence.
Oui, alors, bon, j'ai fait un cursus d'une dizaine d'années d'études, en réalité, à la fois pour l'archéologie et l'histoire, et puis ensuite, en parallèle, j'ai passé les diplômes. Ouais, c'est ce qu'on est obligé de faire, en fait, lorsqu'on se dirige vers l'archéologie sous-marine, c'est-à-dire passer d'abord les diplômes sportifs de la plongée, parce que ça suffisait à l'époque pour participer à des missions. Et puis ensuite, il a fallu compléter la formation par des diplômes de scaphandrier professionnel à l'air jusqu'à 60 mètres à l'époque et au mélange jusqu'à 80 mètres. Donc voilà, pour pouvoir intervenir au moins en incursion, c'est-à-dire sans utiliser vraiment la saturation, mais pour pouvoir aller visiter des sites jusqu'à 80 mètres, puisqu'en fait, c'était un peu ma fonction au DRASM. Non seulement j'avais un programme de fouilles et de recherche sur le port fluvial d'Arles, le port fluvial de la ville d'Arles, au niveau de Trinquetaille, mais aussi de son avant-port sous-marine, de son avant-port, pardon, maritime au Sainte. Mais en même temps, j'étais chargé de, voilà, j'étais un peu le pompier de service en ce qui concerne les autres épaves qui étaient trouvées ou qui étaient recherchées en Méditerranée. Donc, ça imposait de pouvoir plonger plus profondément que le permettait finalement le Rhône, puisque le Rhône a un maximum de profondeur de 20 mètres à peu près, quoi. Ce qui est déjà pas mal, je dois bien
Oui.
reconnaître. Compte tenu des conditions de travail dans le fleuve, 20 mètres, c'est déjà beaucoup.
Mais oui, parce que l'eau ne doit pas être claire, hein, là, dans ces 20 mètres en
Ah ben, elle n'est pas
question.
claire du tout, mais à
Oui.
la limite, lorsqu'on travaille sur les berges dans 5-6 mètres d'eau, c'est passable, ça peut aller, on va dire, mais dès lors qu'on s'aventure un peu plus profondément dans le fleuve, on est pris par le courant et de suite, c'est l'obscurité totale. Sur
Oui.
la rive gauche, notamment côté ville, les eaux sont noires dès qu'on a franchi les 6 mètres de profondeur, quoi. Sur la rive opposée, alors c'est un peu différent, elles sont jaunes en surface, après elles deviennent vertes, puis au bout de 5-6 mètres, c'est marron, marron-gris, puis après ça devient noir, mais au bout de 10 mètres, quoi. Bon, de toute façon, il est toujours obligatoire de plonger dans le Rhône avec des lampes, parce que sinon on n'y voit pas assez pour se diriger, c'est dangereux, mais même pour travailler, on a besoin
Mais oui.
d'éclairer un peu, on découvre, c'est évident,
Donc
bien
tout ça,
sûr.
ça fait des conditions assez difficiles. Et du coup, il faut avoir toute la panoplie qu'on a développée, à la fois un savoir en histoire, en art, en archéologie, et puis tout un panel de techniques que vous déployez, puisque on a employé le mot scaphandrier, vous l'avez employé, eh bien vous êtes scaphandrier professionnel. Vous êtes technicien des
Oui, ça,
fouilles.
moi, c'est ça. Moi, je suis scaphandrier classe 2A et 3B. Donc, j'ai même appris à plonger. Alors, c'était plus déjà de mise à mon époque, lorsque je suis allé, c'était dans les années 90-93. On n'utilisait plus les scaphandres en pied lourd, mais on a plongé en scaphandre pied lourd pour utiliser justement les anciennes techniques. Mais, tout ça, ce sont des laissez-passer, hein. Après, si vous voulez, une fois que vous avez ces diplômes de plongée, vous vous retrouvez sur le Rhône, et là, rien ne remplace l'expérience, quoi. Bien sûr, quoi. Il faut s'habituer. Alors, vous allez dire, tout ça a l'air très compliqué, très hostile, mais j'ai l'impression qu'on s'habitue à peu près à tout. Et c'est vrai qu'on est quand même aussi tellement attiré par les richesses du fleuve, quand on est un archéologue, de retrouver des objets en très bon état, ce qui n'est pas souvent le cas, malheureusement, ni en archéologie terrestre, ni surtout en archéologie sous-marine, où
Où
l'eau
tout
salée.
s'abîme, oui, la corrosion est terrible.
Tout est oxydé, voilà. Dans le Rhône, ces objets sont en très bon état en général. On l'a vu pour le portrait de César, ce marbre est absolument intact, hein, alors que le même marbre, enfin, en tout cas, un marbre tout aussi beau du portrait d'Auguste qui est exposé au musée d'Arles et qui a été trouvé en mer au large des Saintes dans les années 85, lui est totalement grêlé, il est complètement attaqué par
Oui.
les organismes lithophages. Donc c'est vrai que voilà, ça compense un peu les efforts que l'on doit faire pour s'acclimater à ce milieu plutôt hostile, c'est vrai. Voilà.
Et c'est vrai qu'il y a des objets qu'on retire des mers et c'est assez étrange parce qu'il y a une face qui est toute lisse selon l'endroit où elle est exposée et l'autre toute grêlée. Hein.
Oh ben c'est très simple. La partie qui est lisse n'a pas été altérée parce qu'elle est dans la vase, elle est face contre terre, si j'ose dire, et qu'il n'y a pas assez d'oxygène pour ces organismes qui ont quand même besoin d'air pour survivre, quoi. Et du coup, c'est l'autre aspect, l'autre côté de l'objet qui est attaqué, celui qui est en pleine eau, on va dire.
Oui.
C'est vrai que la vase protège relativement bien. D'ailleurs, c'est le cas pour le bois. Le bois des épaves en mer est totalement dégradé. Il a disparu, sauf les parties basses de la carène, en fait, du fond du bateau, qui, elles, sont conservées sous le sédiment. Alors, le bois est gorgé d'eau. Là, je parle bien des vestiges qui sont en mer, où
Oui.
d'ordinaire tout disparaît. Mais là, c'est vrai qu'en mer, sous le sédiment, sous la base, vous avez du bois qui a en général très bien conservé. Et tout le but ensuite est effectivement de le relever sur place, d'en faire les mesures, et si toutefois on le remonte à la surface, de le restaurer, ce qui était le cas d'ailleurs de l'épave Arleron 3,
Oui, puisque.
sauf que l'épave Arleron 3 n'était pas vraiment attaquée par les organismes
Oui, c'est ce que j'allais dire.
vivants,
Dans
les
l'eau
bactériophages.
du fleuve, ça doit être moins corrosif quand même.
C'est ça. Alors, il y a beaucoup de facteurs polluants qu'on ne voit pas, qui sont plus sans doute dangereux pour l'homme, pour nous, les plongeurs, que pour les objets, bien sûr. Mais du coup, dans la vase fluviatile, il y a très peu d'oxygène non plus. Et puis, on a surtout aucun de ces facteurs très destructeurs que sont les organismes vivants,
Oui,
lithophages,
bien sûr.
xylophages. Et donc, même le fer se conserve mieux dans cette eau douce, mais c'est souvent effectivement lié, je vous le dis, à cette vase qui protège les objets et qui les enveloppe en fait contre la corrosion de l'oxygène, quoi.
Alors.
Et c'est vrai qu'on fait toujours la différence entre les objets trouvés en mer. On le voit avec les objets en bronze, notamment les vases en bronze dans le Rhône sont complets. Au large de Sainte-Marie-la-Mer, en Camargue, on a à peu près les mêmes vases, parce que ils sont assez répétitifs dans la
Oui,
cuisine
c'est la
de
série.
bronze
Oui.
romaine. Et là, on n'a plus que les anses, en fait. Les parties légères que sont les vasques, la forme même du vase, en tôle de bronze repoussée, a été complètement dentelée, déchirée, attaquée par la corrosion. Il ne reste que les parties moulées qui sont les plus épaisses.
Alors donc,
Voilà.
une expérience incroyable. Et cette expérience, vous l'avez poussée, j'ai vu, parce que vous êtes parti de nos rivages pour aller fouiller en Afrique aussi.
Alors, c'est-à-dire il faut resituer le DRASM, donc le département des recherches subaquatiques et sous-marines, est un organisme assez unique au monde, en fait. Alors, il y a d'autres organismes, d'autres pays qui commencent à se doter chacun de leur unité d'archéologie sous-marine, mais on était vraiment parmi les premiers, et surtout un organisme assez développé qui était déconcentré, donc qui était basé à Marseille. Et du coup, on était très sollicité par d'autres pays, d'autres institutions, pour demander donc au DRAS et au ministère de la Culture, dont on dépend, des experts. Donc, je suis parti fouiller, en effet, en Afrique. Alors là, en l'occurrence, c'était à la demande du gouvernement gabonais, sur une compagnie des Indes hollandais, en fait, qui avait fait naufrage lors d'un retour de Chine en 1624, l'épave du Mauritius. Alors, bon, moi, j'étais assez habitué aux épaves hollandaises, parce que figurez-vous qu'on en a fouillé au large des Sainte-Marie-la-Mer. Il n'y a pas que des bateaux romains, il y a aussi
Oui.
des navires du XVIIe et du XVIIIe. Et donc, c'est vrai que cette expérience en Camargue m'avait déjà beaucoup servi lorsque je me suis retrouvé en Afrique, dans d'autres eaux, sous d'autres horizons, mais sur une épave tout aussi intéressante, finalement.
Alors avant, et ce sera l'objet de la deuxième partie de l'émission, d'évoquer donc vos toutes récentes découvertes, je voudrais encore signaler que vous avez une expérience de professeur puisque vous avez enseigné à Nîmes à Vauban l'archéologie sous-marine. Et enfin, je ne sais pas s'il faut s'arrêter à ça, mais c'est énorme aussi, une spécialité de photogrammétrie des épaves avec l'utilisation de tas de machines sophistiquées, de sorte qu'on peut dire que vous êtes le spécialiste des épaves.
Bon, écoutez, il y a beaucoup de spécialistes des épaves aujourd'hui. On a formé beaucoup de gens avec le DRASM pendant toutes ces années. Et donc, c'est vrai que le flambeau a été transmis. En plus, ce sont des techniques qui ont beaucoup évolué. Mais moi, lorsque j'ai commencé l'archéologie sous-marine, en effet, je m'étais bien rendu compte qu'on avait une facilité, c'était de se mouvoir dans les trois dimensions, dans l'eau, puisqu'à d'un seul coup de palme, on pouvait s'élever de quelques mètres. Ne font pas les archéologues terrestres, évidemment, il leur faut des camions à plateau, il leur faut voilà, des nacelles, des échelles, bon bref. Et en plus, on avait, lorsque l'eau est claire, une bonne visibilité, et que la photogrammétrie permettait, parce qu'en plongée, le temps est compté, quoi. On n'a pas une journée de
Eh oui,
travail
bien
comme les
sûr.
archéologues terrestres. Et du coup, la photogrammétrie, ça permettait effectivement, avec deux photos, de fusionner les images avec un ordinateur, comme le fait finalement la vision humaine. Hein. Ce sont deux yeux qui envoient une image au cortex cérébral. Et il existait déjà des machines dans les années 80, au tout début des années 80, qui permettaient de fusionner ces images. Alors, c'était assez onéreux, assez cher, ça demandait du temps, mais ça permettait d'avoir un peu de temps finalement des relevés en trois dimensions qui étaient parfaits, qui étaient exceptionnels. Et du coup, les techniques ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup moins cher. Donc, on utilise cette technique. Alors, dans le Rhône et en Camargue, finalement, c'est encore là où j'ai le moins recours parce qu'il faut quand même de la visibilité. Sinon, il faut changer de système de capture, il faut changer d'optique. Enfin, il faut prendre peut-être
Oui.
un laser ou un autre système, plutôt une vidéo, une caméra sonore. Mais en tout cas, c'est vrai que la photogrammétrie, qui était d'abord stéréophotographique et aujourd'hui n'est plus, on n'a plus besoin que ce soit en stéréo, permet de faire des avancées cruciales. Mais d'ailleurs, ça s'est développé en même temps, je dirais, en archéologie terrestre aussi. C'est vrai que ce sont des méthodes qui permettent aux archéologues de travailler beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus précise. Ça évite des milliers d'heures de relevés à la main, quoi, en fait.
Ben écoutez, on est scotché devant l'ampleur de toutes ces tâches et on va marquer une petite pause musicale. On va plonger dans le grand bleu. C'est la nostalgie de ce film qui a ému tant de gens, même s'il est très très vieux maintenant. Il peut peut-être passer un peu ringard, je ne sais pas. Eh bien, après cette musique, nous nous retrouverons pour parler de vos toutes récentes découvertes. À tout de suite, Luc Long. Antiquissimo, Radio Alliance Plus, et Luc Long est notre invité et nous plongeons avec délice dans l'archéologie sous-marine. Et je lui laisse nous raconter sa dernière mission et ses dernières trouvailles sur l'épave SM55. On se croirait dans un film.
Alors écoutez, l'épave SM55, donc ça veut dire Sainte-Marie 55, évidemment. Donc ça veut dire aussi qu'on a plus de 55 épaves, puisqu'on en a une soixantaine, qui sont romaines du 1er siècle. Donc ça équivaut, à mon avis, au plus gros cimetière d'épaves romaines connues. Alors il y a des zones où il y en a plus que ça. Dans la rade de Marseille, il y en a une centaine au moins, mais la rade de Marseille, ça représente 7 fois la surface concernée par les épaves devant les Saintes-Maries-de-la-Mer. Donc c'est vrai que là, on a sur une petite surface, un mouchoir de poche à l'échelle de la Camargue, tout un ensemble de bateaux qui ont fait naufrage. Alors, plus exactement, ils se sont échoués au 1er siècle, essentiellement au 1er siècle, parce que c'est à ce moment-là, pendant cette période-là, qu'on a beaucoup de matières premières, qu'il s'agisse de métaux, du fer, du cuivre, du plomb, de l'étain, mais aussi de blocs de marbre. Donc tous ces pondéreux et ces matières premières sont transportés, vont s'échouer, les bateaux vont s'échouer, et du coup ils sont restés en place,
À
ou à peu
combien de
près en place.
profondeur, là, elles se sont échouées?
Alors en général, ce sont des bateaux qui se sont échoués à l'époque. On commence à le savoir assez de manière assez pertinente parce qu'on fait des comparaisons avec les textes d'archives sur des vaisseaux plus récents, plus modernes. Ils étaient finalement échoués à 300 mètres du bord, dans 2 à 3 mètres d'eau. C'est pour ça que certains d'entre eux ont pu être récupérés. Les chargements ont partiellement récupéré. Mais aujourd'hui, pour répondre à votre question, ils sont plutôt dans les 15 mètres d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, la différence entre le moment où ils se sont échoués et aujourd'hui, eh bien, c'est le recul de la côte, hein, qui permet, en plus la côte s'éloigne, plus la côte recule, on va dire, et plus la profondeur d'eau augmente, évidemment, on
Eh
est plus
oui.
au large, hein, du coup. Voilà, donc ils sont à peu près 15 mètres. Alors, l'épave SM55 doit être dans 14 mètres d'eau. Et elle fait partie de ces chargements donc très nombreux. Alors pourquoi d'abord tant d'épaves? Eh bien parce que c'était une zone qui était très empruntée, à la fois pour les bateaux qui voulaient remonter le fleuve, comme ceux qui le descendaient et qui se retrouvaient en mer, mais qui étaient piégés dans un sens comme dans l'autre par des bancs de sable. Alors ces bancs de sable, ils sont très dangereux, on les connaît
Ah
aussi
oui, il y en a
beaucoup à
beaucoup
travers
par là-bas,
le
oui.
monde. Et donc c'est vrai qu'ils ont les bateaux ont laissé beaucoup de il y a eu beaucoup de pertes en fait, ils ont payé un lourd tribut. Il fallait pouvoir se jouer entre les bandes de sable qui changeaient quotidiennement en fonction de la météo bien sûr, et qui étaient toujours un piège pour les bateaux, surtout que c'est pas des bateaux très bien manœuvrant non plus, quoi, bien sûr. Ils sont en voile arrière avec une, enfin, un vent d'arrière avec une voile carrée. Bon, c'est pas très simple à manier. En principe, d'ailleurs, ils ne devaient pas forcément remonter le Rhône. Ils étaient plutôt, pour les plus gros d'entre eux, obligés de stationner sans doute dans un avant-port maritime, hein,
Et oui,
qui
parce
devait
que
être.
oui, et on transportait les marchandises sur d'autres bateaux plus
Oui, c'est
plats.
ça.
Oui.
Il y avait d'autres bateaux qui permettaient, qui étaient des fluviaux maritimes et qui permettaient d'alléger, de transborder. D'ailleurs, c'est la spécialité d'Arles, y compris
Oui.
d'ailleurs pour les périodes les plus récentes. La Lège d'Arles est très connue au XVIIe, XVIIIe siècle, mais en fait, elle est connue déjà d'abord, sans doute, à mon avis, à l'époque romaine. Et voilà, il y a même dans le Rhône, on a retrouvé sur la plaine, c'est-à-dire sur la base de la statue de Neptune, la statue en marbre qui est exposée au musée d'Arles. Vous avez une dédicace à une corporation qui est justement les Nunclari, qui sont comme à Rome, ceux qui s'occupent de manœuvrer des allèges qui vont descendre alors le Tibre lorsqu'on est à Rome, mais qui vont descendre le Rhône et décharger ces vaisseaux pour reporter, alors peut-être pas remonter toute la cargaison parce qu'on a des vaisseaux de 100 tonnes et que les allèges, bah, si elles veulent justement pouvoir remonter le fleuve, il ne faut pas qu'elles soient trop lourdes. Enfin, en 3 ou 4 voyages, ces bateaux pouvaient vider un gros vaisseau de mer. Et donc, on a toute une activité économique très, très importante qu'on ignorait, en fait, parce qu'on ne savait pas que ce Rhône-là. Alors, ce Rhône, aujourd'hui, on l'a un peu oublié. Au Moyen-Âge, on l'appelle le Rhône de Saint-Féréol. Et
Oui.
sinon, il a pas d'autre nom vraiment que l'Ostium Metapinum. Mais l'Ostium, ça veut dire l'estuaire, quoi, en réalité.
Oui.
Sans doute, c'était le Rhône d'Arles, et ce Rhône de Saint-Vérol lui sera donné, ce nom lui sera donné qu'au XIIe siècle. Et il mettait en relation finalement la ville avec l'un de ses avant-ports, puisque c'était une époque où il y avait 3 branches. Le Rhône avait une branche à l'ouest vers Aigues-Mortes, on va dire, hein, qui se perd aujourd'hui dans les méandres, qui se perd aujourd'hui dans la petite Camargue. Il y avait aussi le bras qui nous intéresse, donc qui descendait vers les Saintes-Maries-la-Mer, qui n'existait pas, ou en tout cas qui s'appelait pas comme ça, bien sûr, à l'époque. Donc, qui est le Rhône de Saint-Féréol. Et puis, on avait la branche orientale qui allait vers Fos, et qu'on appelait la branche marseillaise. Quand je dis on appelait, c'est Pline, c'est Strabon qui énumère le nom de ces 3 branches. Et nous sommes sur la branche du milieu qui est visiblement sans doute la plus utilisée, hein, puisqu'on a un très gros cimetière à bateaux, je vous le disais.
Oui.
Alors que dans la région de Fos, où sans doute les bateaux pouvaient aussi remonter et descendre, on a beaucoup moins d'épaves. Donc la plus utilisée, c'est sans doute celle-ci. Elle va se tarir à partir du XIe siècle. Elle sera coupée, définitivement asséchée en 1440. Mais c'est vrai que au 1er siècle notamment, et pendant sans doute toute l'Antiquité, puisqu'on y retrouve aussi, alors pas des épaves, mais des amphores grecs de Marseille ainsi que des amphores étrusques, on voit qu'elle fonctionne dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, et ce commerce s'arrête à peu près à la fin du 5e et au début du 6e siècle après Jésus-Christ. Mais le florite, on va dire, la partie la plus importante de ce commerce, elle est marquée au 1er siècle, notamment par les denrées qui sont transportées avec la paix augustéenne, mais aussi, bien sûr, avec le nombre d'épaves, qui est donc, je vous le disais, de loin ici le plus important. Alors, SM55 fait partie de ces bateaux.
Et alors, vous avez trouvé des objets dont on imagine qu'après, ils seront entreposés au musée de Saintes.
Alors, oui, bien sûr. Là, alors c'est le cas déjà, bien sûr. Il y a un bon nombre d'objets qui sont présentés au musée des Saintes-Maries-la-Mer. Là, ce sont des lingots de plomb. On avait déjà retrouvé, c'est la 4e épave chargée de lingots de plomb.
Et qui descendait de Germanie, d'après ce que j'ai lu, c'est ça?
Ça, absolument, c'est ça. En réalité, c'est à l'époque de.
De Tibère.
On est donc. Oui, on est juste après Auguste, donc c'est le deuxième empereur, hein, puisqu'on ne compte pas César
Oui, voilà.
comme César, c'est encore sous la République. Et donc, à l'époque de Tibère, eh bien, en fait, il y a une région de la Rhénanie où on produit du fer, et à Eifel, ça s'appelle Eifel, et c'est le district minier d'Eifel aujourd'hui. Et c'est là qu'on a retrouvé effectivement des vestiges d'exploitation de sidérurgique. Et d'autres lingots, notamment un lingot qui est marqué comme le nôtre de l'époque de Tibère, qui a été retrouvé en Belgique, intact, qui n'avait pas été refondu. C'est très rare de retrouver des lingots de plomb finalement en milieu terrestre, parce que quand ils sont arrivés à bon port, en général, ils sont destinés à être
Eh
fondus.
oui.
Le plus souvent, on les trouve sur les épaves. Mais en tout cas, la comparaison avec des ce lingot trouvé à terre et surtout les analyses métallographiques, chimiques et métallographiques, me permettent aujourd'hui de savoir que. Et puis d'ailleurs, l'inscription elle-même, puisqu'en réalité, l'inscription, elle nous dit voilà, l'empereur Tibère, qui s'appelle César Auguste, propriétaire du plomb de Germanie, de ce plumbum germanicum, qui a été fait par. Et après, on a trois lettres qui sont sans doute soit le nomen, soit le nom, soit la tria nomina, enfin, en tout cas les noms et prénoms par lesquels on devait désigner un fonctionnaire impérial qui travaillait pour le compte évidemment de Tibère et qui a laissé son nom sur ce lingot. Donc c'est juste la partie à éclaircir. Bon, on n'en est qu'au début de la fouille, là c'était une première expertise. En tout cas, ce qui est très intéressant d'avoir ce type d'épave, c'est la deuxième en réalité, donc deuxième épave chargée de lingots de plomb. La première, c'était aussi du plomb germanique, mais c'était visiblement un producteur privé. Ce n'est pas le cas avec SM55, où là, évidemment, on voit bien
Oui,
que
on
c'est
est dans la
l'empereur.
sphère, j'allais dire, gouvernementale, là, hein.
C'est ça, les mines là appartiennent au prince. En tout cas, ce qui est intéressant avec cette nouvelle épave, c'est que non seulement donc on voit bien qu'il était dangereux de sortir du Rhône et pas seulement d'y entrer, on pouvait couler aussi. Vous savez, en général, quand on part en bateau d'une zone, on part par beau temps, quoi. C'est plutôt en
Oui,
mer ou à
on sait
l'arrivée
jamais
qu'on
ce qui nous attend, oui.
Oui, c'est ça, c'est un peu l'atterrissage qui est le plus compliqué, quoi, parce qu'en fait, on ne sait pas trop de la météo qu'on va rencontrer au moment où on aborde une nouvelle côte. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, même s'ils sont partis par beau temps, eh bien, le problème des bancs de sable était pertinent, était persistant. Et donc, ce bateau s'est quand même échoué. Mais ce qui est surtout intéressant par rapport à la première épave chargée également de lingots germaniques, c'est qu'on a aussi du fer à bord de ce bateau.
Et
Et ces barres de fer, on les connaît bien. Ce sont des barres de fer. Vous savez, des barres de fer de 70 cm de long à peu près, qui sont estampillées souvent, là on n'a pas pu le voir encore, elles sont toutes compressionnées, qui ont une section de 2,5 par 2,5, vous voyez, donc ça fait des petits pseudo-carrés ou carrés, et c'est du fer de très bonne qualité, et on a une bonne idée de la provenance de ce fer,
de
puisque depuis
Narbonne,
des années,
oui.
voilà, on travaille sur les analyses de ce fer et on pense plutôt à la région de la Montagne Noire, au-dessus de Narbonne, qui laisse penser du coup que ce bateau qui est parti avait des lingots qui descendaient depuis le Rhin, qui a donc dû emprunter le Rhin, puis ensuite passer vers la Saône, puis descendre la Saône, puis le Rhône, eh bien, s'est retrouvé sans doute dans le port des Saintes où ce chargement a été complété par des barres de
Oui,
fer
voilà.
qui, elles, venaient de Narbonne. Donc, ça renforce un peu ce rôle de rupture de charge et de redistribution, si vous voulez, du port des Saintes. Parce que là aussi, c'est un peu comme César. Il y a des gens qui disent, oui, mais alors, enfin, on dit Luc-Long, mais c'est moi, je suis un peu comme l'arbre qui cache la forêt. Hein. Il y a tous mes équipiers depuis des tas d'années qui travaillent avec moi en Camargue et qui sont les voilà, qui traversent les mêmes mauvaises conditions que moi de travail. Je pourrais pas tous les citer, mais c'est vrai que d'ailleurs, Giorgio Spada, qui dirige aujourd'hui le musée de
Oui.
Sainte-Marie-de-la-Mer, en est un justement. Mais il y en a bien d'autres à qui je dois beaucoup.
Mais
Et donc,
justement,
c'est vrai que oui.
je vous propose que nous fassions, dès que vous aurez encore trouvé d'autres choses, une émission de plus, parce que là, le temps est terminé. Mais
Ah, mais oui,
nous
d'accord.
sommes restés sur notre faim, donc nous allons nous reparler très vite
Eh bien, écoutez, très bien, je vous parlerai plus en détail
de
de ce
cette
que je pense
équipe. Voilà.
de cette équipe et de cet avant-port maritime de Sainte-Marie-de-la-Mer à l'époque romaine. C'est
En
quand
tout
même un grand
cas,
plaisir pour moi.
j'incite tout le monde à aller dans ce merveilleux musée des Saintes-Maries-de-la-Mer, musée de la mer, musée de l'archéologie. Merci beaucoup, Luc Long, et bon courage pour la suite.
Merci à vous. Au
Au
revoir.
revoir.